Vous écoutez France Culture.
Plus près qu'arbre, arbre vert. Ce soir, l'atelier de création radiophonique présente Briseur de silence, un essai radiophonique de Simone Bitton. Briseur de silence est un documentaire inspiré par le travail de l'association israélienne Breaking the Silence, qui recueille et rend public des témoignages de soldats israéliens racontant ce qu'ils ont fait dans les territoires palestiniens pendant leur service militaire. Des voix d'exilés israéliens, anciens soldats de Tsahal, disent les mots de la génération actuelle de soldats et de soldates.
La création.
Atelier de création radiophonique. Briseur de silence. Un essai radiophonique de Simone Bitton.
Je suis sergent-chef et je servais au bataillon Kharouv. C'est le bataillon qui est posté à Naplouse en général, qui fait partie de la brigade 900, Khativat 900. Quand je suis arrivé au bataillon, c'était une époque où il y avait pas mal de Palestiniens qui jetaient des bouteilles incendiaires, Baktabistim. Il y avait une compagnie qui terminait son parcours, et je me souviens que leur commandant leur disait « Visez au pied, touchez au ventre ». Je l'ai entendu dire ça. C'était sur l'axe entre Ghanim et Kadim. Il leur disait ça même pour des jets de pierre. Visez au pied, touchez au ventre.
Shovrim Shtika. C'est une organisation israélienne qui recueille des témoignages de soldats à propos de leur service dans les territoires occupés. Les bénévoles de Shovrim Shtika sont eux-mêmes des vétérans de Tsahal, l'armée israélienne. Les témoignages sont en ligne, par centaines, en hébreu et en anglais, sur le site shovrimshtika.org.
J'étais sergent-chef dans la brigade Golani. Je passais pas mal de temps à Hebron. À Hebron, si on avait besoin d'acheter quelque chose chez les Palestiniens, on envoyait quelqu'un, surtout des enfants. On appelait un gamin et on lui disait « Hey, Jibel Khoubez, amène du pain » ou des trucs comme ça. On lui donnait l'argent et il ramenait la monnaie. Je me souviens, à l'époque, je trouvais qu'ils étaient très serviables. Après des années, j'ai compris qu'ils le faisaient parce qu'ils avaient peur de nous. Parce que si tu as 10 ans et qu'un soldat t'appelle et te demande d'aller faire ses courses, alors bien sûr, tu as peur qu'il te fasse quelque chose si tu refuses, alors tu le fais.
Shovrim Shtika, cela veut dire « briseur de silence ». Shovrim Shtika, S-H-O-V-R-I-M-S-H-T-I-K-A. S comme soldat, H comme hébreu, O comme occupation, V comme violence, R comme régiment, I comme Israël, M comme malheur, S comme soldat, H comme horreur, T comme témoignage, I comme Israël, K comme kaki, A comme armée.
Une fois, on a attrapé un garçon qui avait jeté des pierres. C'était un petit garçon, 11 ans, 12 ans. Le commandant a dit qu'il fallait lui donner une leçon. Alors, on l'a enfermé dans les toilettes. Il est resté toute la journée dans les toilettes. Et de temps en temps, il y avait un soldat qui entrait et lui enfonçait la tête dans les toilettes. Je m'en souviens très bien, ce soldat c'était un copain de ma compagnie. Il lui tapait la tête contre la lunette des toilettes. Et je ne sais pas ce qu'il lui en fait encore. Je me souviens de cet enfant. Je me souviens comme il pleurait. Il devait être en état de choc de se retrouver aux mains de l'ennemi sioniste, avec des soldats qui allaient le tuer parce qu'il avait jeté une pierre. C'était horrible. Mais je n'ai rien dit. Aujourd'hui, je pense autrement, mais à l'époque, il y avait une atmosphère de folie. Tu comprends? C'était comme ça là-bas. C'était comme ça.
Un jour, c'était en juillet 2002, j'ai vu que la base s'était remplie de canapés et de fauteuils. Il y en avait partout, dans les bureaux de secrétaires, dans les chambres des officiers, dans les chambres des combattants, même dehors. Je demandais à un soldat de la compagnie d'où venaient tous ces canapés, et il m'a dit qu'il y avait eu une opération à Khan Younes, un dynamitage d'ateliers clandestins, et que les canapés avaient été confisqués dans les maisons des Palestiniens qui habitaient dans le quartier. Ils les avaient empilés sur un camion militaire, une Dana, et ils les ont ramenés à la base. C'était l'ordre de leur commandant et aucun soldat n'a protesté.
Pour les arrestations, on recevait des informations des mecs de la sécurité, le Shabak. Où se trouve le type, quelles armes il a et le degré des dangers qu'il représente. Ensuite, on planifiait l'opération. Chaque fois qu'on entrait dans une maison, c'était une entrée mouillée, une entrée beratouve. Ça veut dire qu'avant d'entrer dans la pièce, tu arroses à l'intérieur à l'arme automatique. Comme ça, tu es sûr que personne ne va te tirer dessus. On dit aux gens de sortir avec leur carte d'identité et ensuite on passe de pièce en pièce pour perquisitionner en arrosant. Je me souviens, une fois, on est entré comme ça en arrosant et il y avait un bébé de 3 ans sous le lit. Sa mère n'avait pas eu le temps de le prendre. Elle avait oublié. Il a eu de la chance. Il n'est pas mort. Alors qu'on avait arrosé toute la pièce et même le lit. Ça nous a un peu choqués. Alors après ça, on faisait différemment. Un soldat soulevait le lit et un autre tirait par-dessous.
Grade sergent-chef, unité brigade Givati, infanterie. Lieu de l'incident, Rafah, bande de Gaza. Grade sergent-chef, unité régiment de blindés. Lieu de l'incident, Qalqilia. Cisjordanie. Grade lieutenant, unité brigade Golani, infanterie. Lieu de l'incident, Salem, Cisjordanie. Grade sergent-chef, unité commando Egoz, brigade Golani. Lieu de l'incident, Naplouse, Cisjordanie.
on utilisait des boucliers humains. C'est-à-dire, avant d'aller arrêter un type, d'abord on frappait à la porte du voisin. Ça s'appelle Noal Shachen, la procédure du voisin. On va chez n'importe quel voisin, une ou deux maisons à côté, n'importe quelle porte, c'est le commandant qui choisit. Et on amène les voisins avec nous. En fait, on l'amène devant nous. Il avance avec un fusil dans les dos, et on va comme ça jusqu'à la maison où on doit faire l'arrestation. Quand on arrive chez les suspects, c'est le voisin qui fait tout. Il frappe à la porte, il lui crie de sortir, et pour la perquisition, c'est lui qui passe les premiers, qui ouvre les portes des chambres. Comme ça, s'il y a quelqu'un là-bas qui veut tirer sur nous, en fait, il va tirer sur son voisin. Il sert des boucliers, tout simplement. Ça s'appelle la procédure du voisin, Noal Shachen, et je l'ai fait plein de fois en plus. À un moment, c'était interdit de le faire, mais ensuite, ça a recommencé. Et je suis sûr qu'ils le font toujours.
La combattante, elle doit prouver plus que le garçon. Sur le terrain, si elle cogne, c'est qu'elle est une combattante sérieuse. Elle est capable. C'est un canon, totachit. Moi, à l'entraînement, j'avais des super notations. J'ai été parmi les 10 meilleurs, y compris les garçons. J'avais une super réputation. Mais quand je suis arrivée sur le terrain, je n'ai pas réalisé mes capacités. J'ai été trop molle, chnounit, une morveuse. Alors, au début, j'ai été très respectée, mais après, plus tellement. Il y en avait une qui était là avant que j'arrive. Tout le monde parlait d'elle. C'était un vrai canon. Elle humiliait les Arabes sans faire de manière. On disait, il faut voir comment elle les humilie. Elle leur met des baffes. Waouh! Tu te souviens quelle gifle elle lui avait mis à celui-là? C'est comme ça qu'on parlait là-bas. Sans problème. On parlait comme ça. C'est parce qu'on s'ennuie là-bas. Tu comprends? La routine, l'ennui, ça rend fou.
Grade, sergente. Unité, magav, garde-frontière. Lieu de l'incident, non précisé. Grade, sergente. Unité, nahal. Jeunesse pionnière combattante. Lieu de l'incident, checkpoint Rehan. Grade, sergente. Unité, nahal. Jeunesse pionnière combattante. Lieu de l'incident, base d'entraînement, non précisé.
J'étais sergente, Samelet. Et la base était à côté de l'implantation de Rehan. Je travaillais au checkpoint et je me sentais très bien là-bas. Je me sentais fière. Parce que au checkpoint, tu vois les Palestiniens debout, qui attendent, et nous, on passe devant eux. On se balade. On les voit qui se déshydratent au soleil, et nous, on passe comme on veut, là où on veut. Alors, on sent qu'on vaut plus qu'eux. On est au-dessus de un truc de ce genre.
J'étais très naïve. Les premiers jours, ils sont tous allés en opération à Qalqilia. Et quand ils sont revenus, j'ai remarqué que des soldats avaient des chapelets, des masbahas, et aussi des petites couronnes miniatures. Je leur ai demandé « D'où vous avez ces trucs ?» Et ils m'ont répondu « Comment ça, d'où on les a ?» On était à Qalqilia. On a pris des souvenirs dans les maisons. Comme une idiote, le lendemain, j'ai vu le commandant des bataillons. Je lui ai dit que j'avais vu des soldats de telle compagnie qui avaient piqué des chapelets et des couronnes dans les maisons à Qalqilia. Il s'est mis en colère et a appelé le commandant de la compagnie, le MMP. Mais bien sûr, le MMP a dit que j'avais tout inventé parce que ces soldats n'auraient jamais fait une chose pareille. Alors, ça s'est terminé comme ça. Sauf que, à partir de là, cette compagnie m'a boycotté. J'y ai passé 4 mois et personne ne m'a adressé la parole. Parce que j'avais cafeté au commandant.
Je vais te raconter encore une chose. Je me souviens très bien que j'ai aidé mes soldats à régler les visières des fusils en tirant sur des maisons palestiniennes. En principe, c'était des maisons abandonnées. Mais en fait, je n'ai pas vérifié si elles étaient vides. Simplement, elles étaient près de l'avant-poste, du Moutsav, disons à 100 mètres, 200 mètres de notre position. Et je n'ai vu personne qui entrait ou qui sortait de ces maisons. Donc, on estimait qu'elles étaient abandonnées. On visait surtout les citernes d'eau, à Doudim, sur les toits, pour régler les viseurs. Je me souviens très bien, c'est moi qui dirigeais l'exercice de tir.
Pour l'arrestation d'un suspect sur les terrains, il y a des règles générales. Tu dois crier « stop ». Waqef en arabe. Ensuite, stop, ou bien je tire. Waqef au chani yore. Ensuite, tu dois tirer en l'air, des tirs de sommation, puis tu dois tirer au sol, etc., blablabla. En fait, en plein opération, personne n'a observé les règles. En opération, ça va plus vite. En activité opérationnelle, c'est waqef et boum. S'il ne s'arrête pas à la seconde où tu cries waqef, s'il ne lève pas les bras tout de suite, tu tires pour tuer. Tu ne tires ni en l'air, ni en direction du sol, ni rien du tout. C'est waqef, boum. Et parfois, le waqef, c'est juste pour le protocole. En fait, c'est souvent boum, waqef. D'abord, tu tires, et ensuite, tu cries stop.
Une fois, une fille, une soldate de ma compagnie, elle s'ennuyait. Alors, elle a lancé un walkie-talkie qu'on lui avait jeté des pierres. On lui a demandé « Qui t'a jeté des pierres ?» Elle a répondu « Je sais pas, deux types avec des chemises grises, j'ai pas bien vu. » Alors, les autres ont pris 2 Arabes avec des chemises grises. Ils les ont tabassés, bien sûr. Et ils ont demandé à la fille « C'est eux ?» Elle a dit « Non, je ne crois pas. » Et voilà, toute une histoire comme s'il y avait eu un incident. 2 Arabes ont été tabassés, mais en fait, il ne s'était rien passé ce jour-là.
Je me souviens un jour, on a discuté parce qu'une fille a raconté qu'elle avait mis une gifle à un arabe. C'est la première fois que j'ai attendu ça, qu'une fille avait giflé un arabe. Elle a dit... Il m'a mal répondu, il m'a mal parlé. Un truc comme ça. Alors, je lui ai mis une gifle. On s'est mis à discuter. C'est devenu une discussion sur qui l'avait déjà fait et qui ne l'avait pas encore fait. Une fille avait donné une gifle. Une autre fille avait obligé un arabe à se mettre à genoux. Et une fille a raconté qu'une fois, elle a collé son arme chargée au visage d'un arabe pour le menacer. Il lui avait juste dit... Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu veux encore? Un truc de ce genre. Alors, il a chargé le fusil. Tchik tchik. Et elle, lui, a collé les canons au visage. Moi, ça m'a choqué. Je me souviens. Après, je suis allée chez ma grand-mère, en permission, et je lui ai dit, je dois sortir de là-bas. Je ne peux pas rester là-bas. Les garçons, ils faisaient ça tout le temps. Mais ça m'a choqué que mes copines les fassent aussi. Pour les garçons, c'était la routine. C'est normal. Ils voyaient un arabe. Où tu vas? Tchik tchik. Ils ne diraient pas. Mais c'est tchik tchik. C'est déjà une menace. Tout les tombe comme ça. Quelqu'un marche dans la rue. Où tu vas? Tchik tchik. Comme ça. Tout le temps. Tchik tchik. Sur des enfants, sur tout le monde.
Les armoires, on les fait tomber par terre pour voir s'il n'y a pas une niche derrière. C'était les ordres. Il fallait aussi soulever les tapis. Et pour soulever les tapis, il faut renverser tout ce qu'il y a dessus. Quand tu soulèves des lits superposés, tu les casses. Il n'y a rien à faire. Les meubles se cassaient tout le temps, surtout les armoires. Il y a des unités qui ouvrent les maisons en tirant sur les portes. Nous, on ne les faisait pas, mais on tirait sur les armoires, au cas où il y a quelqu'un caché dedans. D'ailleurs, on nous amenait des paquets entiers de munitions pour ça, pendant les perquisitions. À Jenin, l'ordre était « on peut détruire, mais on ne doit pas voler ». Et Charles Haros à Sourlignov. C'est-à-dire que la destruction, ça fait partie de la mission. En fait, les ordres ne sont pas clairs à 100%. Personnellement, je n'ai pas volé, mais j'en ai entendu parler. Il y a eu beaucoup de cas de pillage dans les bataillons 51 de la brigade Golani. Énormément. Ils ont ramené un tas d'ordinateurs et de mini-disques. Et des mecs ont volé des dollars aussi.
Grade, sergent-chef. Unité, Magav, garde-frontière. Lieu de l'incident, Jenin, Cisjordanie. Grade, sergente. Unité, Nahal Sahlab, jeunesse pionnière combattante. Lieu de l'incident, Hébron, Cisjordanie. Grade, sergente. Machaki Trinour, sous-officier d'éducation. Lieu de l'incident, bande de Gaza. Grade, sergente. Unité, non précisée. Lieu de l'incident, checkpoint Erez, bande de Gaza. Grade, sergent-chef. Unité, Magav, garde frontière. Lieu de l'incident, zone de suture, Cisjordanie. Grade, lieutenante. Officier d'éducation. Lieu de l'incident, Hébron, Cisjordanie.
Un jour, j'ai emmené mes soldats au spectacle à Tel Aviv. On est parti de Gaza et on est allé au grand théâtre Habima de Tel Aviv en matinée. C'était très sympa. Ensuite, on est rentré à la base. On était dans un camion ouvert. On a passé le checkpoint de Kisufim. Et tout d'un coup, c'était un autre monde et j'ai vu comment il s'est transformé. Au bord de la route, il y avait des Palestiniens avec des carrioles, des charrettes et des ânes. Des gens qui allaient à pied. Alors, ils se sont mis à jeter sur eux les restes de leur repas. Du fromage, des œufs, des tomates pourries. Pour moi, c'était la pire chose que j'ai vue dans le territoire. Ça m'a rendue hystérique. J'ai crié « Qu'est-ce que vous faites ?» « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et il rigolait et me disait « Tais-toi, c'est rien, reste assise. » Et il balançait la poubelle comme ça, du haut, sur les Arabes, en bas, sur la route. Il y a quelques heures, ils applaudissaient au théâtre, et dès qu'on a passé le checkpoint, ils sont devenus des sauvages.
Il y avait le couvre-feu à Kalkilia. Interdiction de sortir. Il y avait un tank sur une hauteur qui surveillait et il a vu un paysan qui essayait de se faufiler avec un âne et une charrette. Alors ils lui ont confisqué la charrette et ils l'ont renvoyé chez lui. Ensuite, la charrette est restée près du tank et le commandant du tank a trouvé que ce serait rigolo de passer sur la charrette avec le tank. Ils l'ont complètement aplati. Je le sais parce que des réservistes ont tout vu et ils ont raconté au commandant de leur compagnie. Et cette fois-là, pour une fois, le commandant du tank a été puni.
J'étais dans l'unité Oketz. C'est une unité qui travaille avec des chiens. Et j'ai pu te raconter des cas avec des blindés de la brigade Golani à Jenin. Ils écrasaient des voitures pour s'amuser. Je peux le dire parce que j'étais avec eux. C'est des blindés de transport de troupes. Ça s'appelle Akhzarit. On est entassés là-dedans les uns sur les autres, et parfois, il y a aussi un maître chien de notre unité. Alors avec les chiens, ça pue encore plus. Lorsque leur commandant avait décidé de faire des conneries, ils roulaient, et tout d'un coup, ils décidaient de changer de direction. Et trach. Ils rentraient dans les voitures de tous les côtés, ils roulaient, ils écrasaient, ils détruisaient. Moi, je n'ai jamais rien dit. Je n'étais pas en position de dire quelque chose, mais je l'ai vécu. Et quand on est entré à Ramallah avec des tanks, je peux te dire que toutes les voitures qui étaient dans la rue ont été aplaties. Toutes. Et à chaque fois qu'un Nagmash faisait marche arrière, boum, il cassait une vitrine des magasins.
J'étais dans les gardes-frontières, Shoteret Magav. Mon travail, c'était d'attraper le plus possible des Shabachim, c'est-à-dire des illégaux, des Palestiniens sans permis d'entrer en territoire israélien. La plupart du temps, j'étais avec un soldat plus jeune que moi. C'était moi la responsable de la patrouille. On se planque dans les arbres pour ne pas être vu. Et hop, on lui saute dessus. « Ta'alahon, viens ici, Jibel Hawiye, donne tes papiers, etc., etc. » Tu peux en coincer facilement une bonne trentaine en une petite demi-heure, mais tu n'as pas le temps de les contrôler un par un. Tu en attrapes un, tu les fais asseoir en bas quelque part, et tu attends les autres. Quand tu en as assez, tu commences le contrôle. D'abord, on les met en rond. Et il y a cette chanson des gardes-frontières. Tu la connais. Wahad hummus, wahad ful, ana bahibak mishmar hagvul. Un plat de pois chiches, un plat de fèves, et moi j'aime les gardes-frontières. On les oblige à chanter ça et à sauter. Et si l'un d'entre eux rigole, ou si on décide qu'il a rigolé, on lui met un coup de poing dans la figure, même s'il n'a pas rigolé. Mais j'ai envie de mettre un coup de poing, boum! Ça peut durer des heures. Ça dépend combien on s'ennuie. Si on s'ennuie, ça peut durer longtemps. Et si quelqu'un qui a fait son service là-bas te dit qu'il ne savait pas, il faut l'envoyer chez le docteur, parce qu'il doit être sourd ou aveugle.
Nous, dans l'unité de Nahal, on était plutôt gentils par rapport aux gardes frontières. Eux, ils roulaient tout le temps en jeep, ils n'allaient pas à pied. Ils faisaient monter un Palestinien dans la jeep, lui donnait des coups et le jetait de la jeep en roulant. Une fois, j'ai vu ça. Il l'avait jeté tout près de moi et j'ai couru vers le type. Alors, le soldat qui était avec moi m'a dit « Ne le touche pas, ne le touche pas. Ils ont des maladies sur la peau. » Il était couché par terre. Je lui ai versé de l'eau sur le visage et je lui ai laissé ma gourde. C'est tout ce que j'ai fait, pas plus. Je n'ai pas appelé une ambulance, rien. Il s'est relevé et il s'est enfui en emportant la gourde.
Au checkpoint, les Palestiniens devaient se mettre en ligne droite pour faire la queue. Sinon, le commandant de checkpoint passait en jeep et il balançait une grenade. Je le sais parce qu'un jour j'ai vu que le stock de grenades assourdissantes était épuisé. Je demandais « Comment ça se fait qu'on n'a plus de grenades ?» On m'a répondu c'est parce qu'il y a eu des problèmes au checkpoint. On a dû jeter quelques grenades pour que les gens se mettent en ligne droite pour faire la queue. Je me souviens aussi qu'une fois, un arabe est arrivé au checkpoint avec un t-shirt sur lequel il y avait une inscription. Un truc d'une organisation, je ne sais pas quoi, qui n'a pas plu au sergent qui commandait le checkpoint. C'était un sergent, mais il avait l'autorité d'un officier. Le t-shirt ne lui a pas plu, alors il a arrêté le type. Il l'a mis debout, dans une flaque d'eau et l'a laissé là-bas pendant plusieurs heures, comme ça, parce que ça l'avait énervé. Alors ce sergent, ça lui a donné bonne réputation dans sa compagnie. C'était un homme, Gever. Pendant toute la période où j'ai été là-bas, aucun soldat n'a été jugé pour des choses comme ça, alors que les ordres étaient de juger tout soldat qui aurait commis une faute. Il y a eu des jugements pour des soldats qui avaient quitté leur poste de garde, mais jamais pour ceux qui avaient fait des trucs aux Palestiniens. Sauf une fois, un commandant de compagnie qui avait donné des coups. Il a eu 28 jours d'arrêt. C'est le seul cas.
Grade, sergent-chef. Unité, bataillon 101. Brigade de parachutistes. Lieu de l'incident, Hébron, Cisjordanie. Grade, sergent-chef. Unité, brigade de parachutistes. Lieu de l'incident, Casbah de Naplouse. Grade, sergent-chef. Unité, bataillon de reconnaissance, brigade Givati. Lieu de l'incident, base de Mishmar Hanegev. Grade, sergent-chef. Unité, bataillon Kharouv, brigade 900. Lieu de l'incident, Naplouse, Cisjordanie.
On faisait des barrages improvisés avec des pierres et des rochers, comme ça. On les mettait en tas sur les axes à côté du village palestinien. Des axes, je veux dire des chemins de terre, là où les paysans passent. Comme les chemins des randonnées quand tu fais des trekking en vacances à l'étranger, tu vois. Des chemins comme ça. C'était pour montrer notre présence, qu'ils sachent que Tzahal est passé par là, comme mesure de dissuasion. Mais ce qu'on faisait en plus, des fois, on mettait des grenades lacrymogènes ou des grenades assourdissantes au milieu du truc. Comme ça, on mettait une pierre sur le levier de la grenade, de manière que si quelqu'un essayait de la soulever, ça fera tout sauter. Imagine-toi les pauvres paysans palestiniens qui arrivent, qui essayent de soulever la pierre, et ça lui explose dessus. On a fait ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'une fois, ça explosait dans les mains d'un officier. Il était en état de choc, un peu blessé. Alors là, tout d'un coup, on nous a dit que c'était interdit de les faire. Et on a arrêté de les faire, alors qu'avant, les officiers eux-mêmes les faisaient.
Au checkpoint, à force d'être là tous les jours à la même heure, on finissait par connaître les Palestiniens qui passaient. Alors, il y avait des soldats qui disaient « Si tu veux passer demain, tu m'apportes une cartouche de cigarette. » En fait, tu peux demander tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête. Et demain, s'il veut passer, il te l'amènera. Un paquet, une cartouche, du chocolat. Tout le monde en parlait en rigolant. Personne ne disait « ça suffit, ce n'est pas bien ». Moi non plus, je ne disais rien. Si j'avais dit quelque chose, je n'aurais plus eu de copains. Parce que les Arabes, c'est l'ennemi. Plus tu leur fais du mal, et mieux c'est. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y avait pas d'ennemis au checkpoint. Juste des gens qui passaient tous les jours pour aller travailler. Et tout ce qu'ils avaient sur eux, c'est leur sandwich. Et ça aussi. Un jour, on te dit, aujourd'hui, les ordres ont changé. Interdit de passer les sandwichs. Interdit de passer la galette au thym, la pita avec du zaatar. Alors, on leur confisquait les galettes au thym et on les rapportait à la base et on les mangeait et c'était très bon.
Il y avait des gamins qui passaient au checkpoint près de Oum El Fahem avec des sacs en plastique pleins de petits trucs à vendre en Israël. Les soldats leur disaient de vider les sacs par terre, soit disons pour contrôler. On savait très bien ce qu'il y avait dans les sacs, mais bon, disons que c'était important pour la sécurité. Alors, il leur faisait vider les sacs et les soldats se servaient. Tiens, voilà, justement j'ai besoin de batteries. Tiens, justement, je n'ai plus de cigarettes. Ah, quel truc rigolo! Je vais l'amener à ma sœur. Allez maintenant, disparais, off mes pots. Parfois, c'était un paquet de 20 piles. Et pour un gamin comme ça, ça représente beaucoup d'argent. Une fois, il y avait une équipe de la deuxième chaîne qui était là par hasard. Et ils sont filmés les soldats en train de piquer dans les sacs. Alors, le commandant de compagnie nous a réunis, il nous a engueulés. Il a dit « Comment vous n'avez pas pensé qu'on pouvait vous voir et vous filmer ?» Il n'a pas dit « Comment vous avez pu faire une chose pareille ?» De voler la marchandise à des enfants. Non, il a dit « Comment vous n'avez pas pensé qu'on pouvait vous voir ?»
En général, quand on arrêtait les gens, on les amenait à la base et là, les gens du Shabak, de la sécurité, ils venaient les chercher et à partir de là, notre rôle était terminé. Mais il y avait tout le temps des plaintes du Shabak qu'on leur amenait de type à mauvais état, qu'ils étaient trop abîmés pour pouvoir être interrogés, tu vois. Alors on a commencé à faire attention pendant les arrestations et à leur livrer les types sans une égratignure pour qu'ils puissent les interroger comme il faut.
Grade, lieutenant. Unité, bataillon 51, brigade Golani. Lieu de l'incident, non précisé.
Lieutenante.
Grade, unité médicale. Unité, lieu de l'incident, bataillon 13, Hébron. Brigade Golani.
Cisjordanie.
Lieu de l'incident, non
grade,
précisé.
Sergente. Unité,
grade,
Nahal.
Sergent-chef.
Jeunesse pionnière
unité,
combattante.
Unité, Nahal.
Lieu
jeunesse
de l'incident,
pionnière combattante.
Mavodotan.
Lieu de l'incident, Jenin.
Grade, sergent-chef.
Grade, sous-lieutenant.
Unité,
unité régiment d'artillerie.
Lieu de l'incident,
non
pont
précisé.
Allenby, Cisjordanie.
Grade, sergent-chef.
Grade,
unité,
sergent-chef.
Jeunesse pionnière combattante.
Garde frontière.
Lieu de l'incident, Ramallah.
Jenin,
Cisjordanie.
Cisjordanie.
Grade, sergent-chef. Unité, bataillon Shimshon. Lieu de l'incident, région de Gush Etzion, Cisjordanie.
À Jenin, on cassait des murs pour passer d'une maison à l'autre, d'une chambre à l'autre. Et on sautait sur les lits pour passer. Quand tu regardais à l'intérieur, tu avais l'impression qu'un bataillon entier était passé par la chambre à coucher. Ya Allah, tu peux pas savoir les bordels qu'on a foutus là-bas, Balagan. Un jour, on a trouvé un atelier, un laboratoire. Je sais plus ce qu'il fabriquait là-dedans. Je crois des mines artisanales dans des tuyaux. On a pris tous les explosifs qu'on avait et on les a mis en chaîne. On a compté 10, 9, 8 et on a tout fait exploser. L'atelier était au rez-de-chaussée. Mais l'explosion a fait tomber tout l'immeuble. Boum, tout est tombé. On l'a filmé en vidéo. Trach. Ça s'est écroulé sur les fondations. Il ne restait plus rien. C'était dingue. Qu'est-ce que je peux te raconter encore ? En plus, il y avait des jours où je faisais sauter 6 portes par jour. Si je ne savais pas ce qu'il y avait derrière la porte, je le faisais sauter. Et parfois, ça détruisait toute la maison. Il fallait mettre un bout de câble électrique entre le détonateur et l'explosif. Et parfois, je n'avais même plus assez de câbles tellement je faisais des explosions.
Une fois, j'ai arrêté un arabe qui roulait alors que c'était le couvre-feu. Il s'est mis à raconter que sa mère était malade, qu'il allait chercher des médicaments et patati et patata. Je lui ai dit « Ok, mais sors de la voiture. » Il n'a pas arrêté les moteurs et il a continué de parler. « Mais ma mère comme ci et ma mère comme ça. » Là, le soldat qui était à côté de moi a chargé son fusil et l'a pointé sur lui. Alors il est descendu de la voiture et le soldat lui a pris les clés. À ce moment-là, un camion à ordures passait à côté de nous. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai jeté les clés dans la benne à ordures et elle est partie. L'arabe n'a plus rien dit. Il m'a juste regardé, comme ça, en silence. Je lui ai dit « Salamat, bye bye, shalom » et on est rentré à la base en le laissant comme ça. Un peu plus tard, les soldats sont allés fouiller dans les ordures. ils ont retrouvé les clés, ils ont ramené la voiture à la base et ils ont commencé à s'en servir pour sortir le soir. Il y a même une soldate qui n'avait pas son permis de conduire et elle a appris à conduire sur cette voiture.
Une fois, on est allé arrêter un type en A+. Je ne me souviens pas qui il était. Il habitait dans un bel immeuble et on avait l'information qu'il était dedans. On arrive, c'est la nuit, et on voit ce grand immeuble, 6 ou 8 étages, avec 3 portes sur chaque palier. C'est beaucoup de familles, avec beaucoup d'enfants. On les a tous fait sortir en donnant des ordres par haut-parleur, mais lui n'est pas sorti. Il refusait de se rendre. Bon. Alors on a commencé ce qu'on appelle Sir Lachatz, la cocotte minute. On commence à tirer sur le bâtiment. D'abord avec des armes légères, ensuite des obus, et ensuite on a amené un bulldozer D9. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de faire tomber tout l'immeuble avec un bulldozer. Ça a duré longtemps, je ne me souviens plus très bien tout ce qu'on a fait. En tout cas, c'était l'hiver, il faisait très froid. Bon. Maintenant, tu t'imagines que pendant tout ce temps, il y a des dizaines de femmes, des enfants, des vieux, et ils sont tous dehors à moitié nus parce qu'on les a sortis du lit. On leur a juste donné 1 minute pour sortir au milieu de la nuit, et ça a duré jusqu'au matin. Finalement, quand il est sorti, il faisait déjà jour. On l'a emmené, on a perquisitionné chez lui, on a trouvé un pistolet, et c'est tout, l'affaire était terminée. Mais ce qui s'est passé, c'est que même après tout ça, les commandants n'ont pas permis qu'on fasse rentrer les gens à l'intérieur, parce que soi-disant les perquisitions n'étaient pas terminées. Mais en fait, c'était terminé depuis longtemps. Ils avaient déjà tout fouillé, ils étaient tranquillement assis à l'intérieur. Ils n'avaient plus rien à faire. Et nous, dehors, on avait des dizaines et des dizaines de femmes et d'enfants, des bébés qui pleuraient, sans couverture, sans rien. Je te dis, c'était vraiment dégueulasse. Parce qu'en plus, il s'était mis à pleuvoir et tout était mouillé. Je me rappelle, des femmes voulaient aller aux toilettes. Elles ne pouvaient plus se retenir. Elles pleuraient. On a demandé et demandé. On a supplié le commandant. Jusqu'à ce qu'on les laisse entrer pour aller aux toilettes. C'est un des moments qui m'a marqué. Je me souviens que j'avais honte. C'était dégoûtant. C'est un des moments qui sont restés dans ma mémoire. Mais il y en avait plein d'autres. C'est juste un exemple, un tout petit exemple.
On avait un commandant qui disait « je veux des cadavres ». Il le disait comme ça, exactement, « ani rotze gufot ». « Je veux des cadavres ». Et pas une seule fois. Je me souviens au moins de 10 fois où il nous a dit ça. Dès le premier jour où il est arrivé, il nous a dit « je veux des cordes et des balles ».« Ani rotze gufot menukavot ». C'était quelque chose d'horrible. D'ailleurs, une fois, je l'ai rencontré dans le civil chez un copain qui était blessé. Il nous a raconté combien de gens la compagnie avait tués. Il a dit « on a tué 28 ». Comme si ce n'étaient pas des êtres humains. C'est des terroristes, alors c'est OK de les tuer. Ces mecs, c'est pas qu'ils disaient, c'est qu'ils aimeraient bien qu'il se passe. C'était des ordres qu'ils donnaient. À chaque fois qu'on sortait en opération, il disait « je veux des cadavres ». Et si on revenait après avoir tué quelqu'un, il était satisfait tout simplement. Il nous disait « bravo, kol hakavod ». Bravo d'avoir tué.
Avant le début de l'opération à Rafah, le général commandant de la brigade nous a dit « On s'attend à 200 morts palestiniens. Metzapim le mataim harugim palestinaim. » C'est ce qu'il a dit. Je me souviens que le commandant de mon bataillon n'était pas d'accord et qu'il n'a pas répercuté la même chose plus bas. Au commandant des compagnies. Mais tout sait comment c'est. Dès qu'ils passent un peu de temps à Gaza, les soldats savent très bien qu'ils peuvent tuer des Palestiniens et qu'il ne se passera rien. Bon, si tu croises un type dans la rue et que tu lui mets une balle dans la tête, on te dira peut-être quelque chose. Mais si tu tires à l'intérieur d'une maison, ou si tu tires du haut de ta position à partir du Moutsav, l'avant-poste. Et si tu tues quelqu'un comme ça, personne n'en saura rien et personne ne te dira jamais rien.
C'était pendant l'opération Rempart, Chomat Magen, Il y avait deux cadavres de Palestiniens qui avaient été tués dans la rue où on était, vraiment sous notre nez. On les avait dans notre champ de vision. Et là, on a vu que quelqu'un sortait d'une maison et essayait de tirer un cadavre à l'intérieur. Il a réussi à en tirer un de deux à l'intérieur. Alors le commandant de l'unité nous a dit que si ça recommence, il faut lui tirer dessus, même s'il n'est pas armé. En fait, ce type, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il ramassait les corps, c'est tout. Mais l'ordre direct du commandant, c'était de lui tirer dessus. Au bout d'un moment, le commandant est parti, et moi j'ai été remplacé par un autre officier, et j'ai quitté la position. Et tout d'un coup, j'ai entendu des coups de feu. Je suis revenu, et j'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ils m'ont dit que le type était revenu et qu'il lui avait tiré dessus. Mais il en manquait. Alors je leur ai dit de ne plus le faire. Je leur ai carrément dit de désobéir au commandant. Voilà.
J'étais officier d'éducation à la brigade des Judées, Khativat Yehuda. Quand un terroriste était tué, les mecs des renseignements les prenaient en photo et ces photos finissaient par circuler par email dans tous les ordinateurs de la base. Elles s'étaient utilisées comme fond d'écran. Comme ça, des photos des cadavres en fond d'écran. C'était une sorte d'amusement. Après les opérations, tout le monde allait regarder les cadavres chez les mecs des renseignements. Il y avait aussi une photo d'un bulldozer en train de détruire une maison. Ça, c'était la fond d'écran chez les mecs de la Hadassah, les génies militaires.
C'était à Hebron. J'étais dans une unité médicale. Il y avait des médecins et des infirmiers qui aimaient bien faire des expériences, juste pour s'exercer. Même si c'était clair que ça ne servirait à rien. Ils le faisaient sur les Palestiniens, pas sur les colons, bien sûr. La procédure, c'est que le docteur doit constater le décès. Tant qu'il ne déclare pas le décès, on donne des soins. Parfois, il y avait des cas limites. Il ne constatait pas le décès, bien que le type était mort, juste pour pouvoir faire encore des trucs, s'exercer à faire une intubation, par exemple. Je le sais parce que, des fois, le docteur revenait après un incident où il y avait eu des morts, et il disait « Il était déjà foutu, mais on a fait un exercice d'intubation. On a fait un exercice de ci, ou un exercice de ça. » Et moi, à l'époque, je n'étais pas en mesure d'accuser qui que ce soit, ou de voir si c'était bien ou pas bien. C'était comme ça. S'exercer pour un chirurgien, c'est bien, non? De toute manière, personne ne critiquait ça. C'était même très bien considéré.
Un jour, c'était le Ramadan. On est entré dans la nuit dans la Casbah Naplouse pour une arrestation. On était en plusieurs groupes et on avançait comme ça, les uns vers les autres. Tout d'un coup, un groupe a vu une silhouette d'un type avec un objet à la main. Ils ont crié « Wakef, stop !» et le type s'est mis à courir. En fait, il courait dans la direction d'un autre groupe. Le premier groupe s'est mis à tirer, l'autre groupe croyait qu'on les tirait dessus et a riposté. Et le type au milieu a été tué des deux côtés. En plus, pour vérifier qu'il était bien mort, on a jeté une grenade sur lui et encore une balle dans la tête. C'est la règle pour vérifier la mort. Vidouyariga. Après ça, il y a eu une enquête parce que les positionnements de groupe n'étaient pas réglementaires. Et qu'est-ce qu'on a compris dans l'enquête? Que ce type, ce qu'il tenait à la main, c'était un petit tambour. Parce que pendant le Ramadan, en Naplouse, il y a une tradition que les hommes avec des tambours passent dans les rues à 4 heures du matin. Ils réveillent les gens pour les repas avant les jeûnes. Mais on ne le savait pas. Si on l'avait su, les types ne seraient pas morts. Mais personne ne le savait, pas seulement nous, les petits soldats, mais les commandants non plus. Personne dans la brigade, personne dans toute salle n'a pris la peine de nous dire qu'à 4 heures du matin, à Naplouse, pendant le Ramadan, il y a des hommes dans les rues avec des objets à la main et que ces objets sont des tambours, et qu'il faut faire attention. On ne nous l'a pas dit. Et cet homme est mort à cause de notre ignorance.
Je devais souvent travailler aux cuisines. À vendredi soir, le bataillon auxiliaire est revenu avec deux cadavres de terroristes. Je me souviens très bien. Je suis sortie du réfectoire pour aller vers ma tante et je les ai vus. Ils tenaient un cadavre debout et ils se prenaient en photo, comme s'ils étaient enlacés avec lui. Ils prenaient toutes sortes de poses. Ils rigolaient. Et il y avait un deuxième cadavre par terre, juste devant le réfectoire, juste là où on se lave les mains avant d'aller manger.
Un jour, un copain a été tué. Et tout d'un coup, je compris la mort. Voilà une personne, Benadam. Et tout d'un coup, c'est fini. Tous ses projets, tout son caractère, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. Une personne, c'est beaucoup de choses. Et tout d'un coup, c'est coupé. Et ce jour-là, en fait, je compris ce que c'est que la mort de quelqu'un. Et là, je me suis dit, voilà. Et tout ce qu'on a tué, nous, je peux te dire que mon groupe a tué des gens innocents, ou qui pouvaient être innocents. Parce qu'il y a eu plein de nuits où on est entré à la Casbah de Naplouse et les ordres étaient, entre 2h et 4h du matin, si on voit n'importe qui marcher dans la Casbah, il faut le tuer. Ou bien, entre 1h et 3h du matin, il faut le tuer. Une fois, à 2h du matin, on a vu un homme sur le toit. Il était à 50 mètres de nous, et il n'était pas armé, et il marchait sur son toit. On l'a dit au commandant par radio. Le commandant a dit, « C'est un guetteur, Tatspitan, vous l'éliminez. » Alors on l'a tué. C'est pas moi qui ai tiré, c'est un copain. Alors, ça fait que mon commandant, un garçon de 26 ans, il a condamné à mort par radio un bonhomme qui marchait sur son toit et qui n'était pas armé. Un guetteur, Tatspitan. C'est quoi un guetteur? Et même s'il guettait, ça veut dire qu'il doit mourir? Et comment il savait que c'était un guetteur? Il ne savait rien du tout. On lui a juste dit par radio qu'il y avait un type sans arme sur un toit et il a donné l'ordre de le tuer. On l'a tué. Le type est mort et à mon avis c'était un ordre illégal. Et ce n'était pas le seul.
Shovrim Shtika, cela veut dire briseur de silence. Shovrim Shtika, S-H-O-V-R-I-M-S-H-T-I-K-A. S comme soldat, H comme hébreu, O comme occupation, V comme violence, R comme régiment, I comme Israël, M comme malheur, S comme soldat, H comme horreur, T comme témoignage, I comme Israël, K comme kaki, A comme armée.
Une fois, c'était au camp de Dothan. Il y avait un détenu palestinien assis sur une chaise et je suis passée devant lui plusieurs fois. Et tout d'un coup, ça m'a énervé qu'il soit là et j'ai eu envie de lui cracher dessus. Alors, les autres m'ont dit « Vas-y, crache !» Alors j'ai craché. Et sur le moment, j'ai trouvé ça très bien. Waouh ! J'ai craché sur un terroriste. C'est comme ça que je les appelais. Mais un peu plus tard, j'ai senti que ce n'était pas bien. Sur le moment, c'était super. mais après j'ai senti que c'était pas humain. Par exemple, le jour de la commémoration de la Shoah, Yom HaShoah, des fois j'y pense et je me dis, c'est ce qu'on nous a fait, à nous aussi, et ce sont des êtres humains après tout. D'ailleurs, il s'est avéré que ce n'était pas un terroriste. C'était juste un gamin qui traînait trop près de la base, alors on l'a arrêté. Il était menotté et les yeux bandés, et au bout d'un moment, il n'y avait même personne qui le gardait. Il était tout seul sur une chaise.
J'ai un peu honte. J'ai commencé à avoir honte après. À peu près un an après le service. Un jour, j'ai vu un film avec des histoires de soldats qui font des choses pas bien aux Palestiniens. Et je me suis dit, moi aussi j'ai fait ça. Mais à l'époque, je n'y pensais pas. Ça m'apparaissait normal. Après avoir vu ce film, j'ai commencé à comprendre que toute cette affaire était tordue. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Toute cette armée, ça ne va pas. C'est lo beseder, c'est lo beseder.
Shovrim Shtika, briseur de silence. Avec les voix de Yael Dagan, Tal Dor, Yael Lehrer, Ron Neiweld, Itai Sapir, Oz Shelach, Eyal Sivan. Prise de son en Israël et en Palestine, Jean-Claude Brisson, Cosmas Antoniadis.
C'était l'atelier de création radiophonique « Briseur de silence », un essai radiophonique de Simone Bitton.
Mais j'attends déjà que revienne la nuit,
scellée dans l'espace.
La même nuit, s'il se peut.
Équipe de réalisation, Manuel Couturier, Jason Taous, Clotilde Thomas, Jean-Richard Dufour, Véronique Amiot et Anna Zmouk. Attachée de production, Marie Dalquier. La pièce sonore « Briseur de silence » est une commande publique du Centre national des arts plastiques, ministère de la Culture et de la Communication, réalisée en collaboration avec l'atelier de création radiophonique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission, nous écrire, consulter et participer au blog de l'atelier sur franceculture.com. Nouvelle apparition de l'atelier dimanche prochain avec un road movie radiophonique, Le Petit Chevalier, par Félicia Atkinson. Voilà, c'est tout, c'est fini. Fin de la fin de l'atelier, une émission proposée par Philippe Langlois et Frank Smith. Mais rassurez-vous, les nuits, je ne les vois plus du tout.